J'aimerais bien maintenant introduire François-Charles Lagarde-Prévost, qui est spécialiste associé à Thierry Gottlieb. C'est quelqu'un qui a une vaste expérience. Il est spécialiste dans les négociations internationales, mais aussi dans les droits de la concurrence dont on parlait ce matin. Ce qu'on appelle en anglais le dumping, je ne connais pas le mot en français malheureusement.
Dumping.
C'est quelqu'un aussi qui a eu une expérience en France, qui a été conseiller technique du ministre Catherine Colonna quand elle était aux affaires étrangères, mais qui a travaillé aussi en France dans l'inspection générale des finances. Donc il connaît très très bien le côté français et en même temps le côté bruxellois. Donc merci beaucoup François-Charles et à vous. Vous voulez vous mettre si vous avez un oui parce que
d'accord. Pas fournit notamment des efforts d'harmonisation, de coordination en matière réglementaire et de supervision qui ont été lancés depuis un certain temps déjà, mais qui se sont accélérés, notamment avec le rapport de la Rosière depuis la crise financière. Je ne vais pas non plus vous détailler par le menu l'ensemble des interventions étatiques en matière financière, mais je vais vous parler d'un sujet qui est à la fois intéressant, qui a, je crois, occupé pas mal de monde ici à Bruxelles depuis un an, et qui est en même temps assez emblématique des problématiques qui vont, je pense, se poser de façon générale aux institutions européennes et à la construction européenne dans les années à venir, à savoir l'application des règles des aides d'État, règles qui existent depuis, comme vous le savez, le traité de Rome, un traité cinquantenaire, hein, plus que cinquantenaire maintenant, face à la crise du siècle, dans un secteur très spécifique de notre économie, que certains d'entre vous, j'ai vu rapidement, et les CV connaissent très bien et intimement, qui est le secteur bancaire. Comme vous le savez, il y a pratiquement un an, pas jour pour jour, mais presque, le ciel est tombé sur la tête des banques, des régulateurs européens, des politiques. On s'est retrouvés en octobre, début octobre 2008, face à une crise de confiance généralisée à l'égard du système financier, une crise de confiance mondiale et une crise multiforme qui s'est caractérisée par notamment la fermeture du marché interbancaire, notamment un début de bank run, c'est-à-dire de panique et de retrait des dépôts par les épargnants dans un certain nombre de banques, y compris ici en Europe, y compris dans ce pays, que vous savez, en Belgique, qui s'est caractérisé par une crise de confiance massive, notamment sur les marchés, avec des capitalisations boursières de ces colosses bancaires européens qu'on croyait si solides, qui se sont réduites comme peau de chagrin, avec des diminutions qui atteignaient quasiment 90% dans certains cas, c'est-à-dire une réduction de valeur qu'on avait absolument jamais eue dans le système financier, dans le système bancaire en particulier. Face à cette situation pour laquelle franchement les superlatifs manquent, les États ont mis en place des politiques d'intervention d'intervention financière au bénéfice du secteur bancaire, pour lesquels là aussi les superlatifs manquent, puisqu'on s'est retrouvé face à des interventions qui, en avril 2009, c'est-à-dire vraiment après si on compte l'essentiel de ce qui a été fait par les États, représentaient à peu près, d'après la Commission européenne, 25% du PIB européen. Si on compte évidemment non seulement le coût des recapitalisations, mais aussi le risque pris par les États, notamment au travers d'un certain nombre de garanties octroyées au système bancaire, avec des ratios qui dépassaient largement 100% du PIB dans un certain nombre de pays de l'Union européenne particulièrement touchés, essentiellement des petits pays avec un certain nombre de banques importantes. On peut citer la Belgique, bien sûr. Les quatre en fait principales banques de détail ont fait l'objet d'interventions étatiques, certaines dans des conditions politiques que vous connaissez tous, hein, on peut citer les quatre parties, Dexia, KBC et ING, pour prendre le cas de la Belgique, et avec des taux qui dépassaient aussi largement 100% en Irlande, au Danemark. Il existe, comme vous le savez, en Europe, des règles en matière d'aide d'État. Et je vais peut-être, je ne sais pas si vous avez eu un rappel déjà ce matin sur ces règles en matière d'aide d'État, mais je crois qu'il est intéressant de les rappeler. Il existe un certain nombre de règles qui sont inscrites dans le traité et dont la Commission européenne est chargée et a compétence quasi exclusive pour ce faire et est chargée du respect. Contrôle évidemment des tribunaux communautaires ou de la Cour de justice. Le principe général posé par le traité, c'est l'interdiction des aides d'État aux entreprises. Ce principe est posé par l'article 87.1 du traité de la communauté européenne. Principe est naturellement soumis à un certain nombre d'exceptions. Les aides d'État sont incompatibles en principe, mais elles peuvent être compatibles avec le traité dans un certain nombre de cas limitativement énumérés à l'article 87 du traité. Et en ce qui concerne les aides aux banques, vous avez notamment deux articles, deux paragraphes de cet article 87.3 du traité qui sont particulièrement pertinents, qui sont l'article 87.3c qui permet dans certains cas de figure des aides aux entreprises en difficulté, et l'article 87.3b qui permet des aides destinées à remédier à une perturbation sérieuse de l'économie nationale. Et je vous le dis tout de suite, mais j'y reviendrai, cet article, ce dernier article, a été très très rarement utilisé dans l'histoire de l'Union européenne jusqu'à il y a un an. Autre principe de base, c'est qu'une aide d'État doit être notifiée à la Commission européenne, et c'est la Commission européenne qui a la compétence exclusive pour approuver ou rejeter l'aide. C'est l'article 88.3 du traité. Et corollaire de ce principe, une aide non notifiée et non autorisée est en principe illégale, et si elle est incompatible avec le traité, doit être récupérée par l'État membre qui l'a octroyée, et les juridictions nationales doivent en ordonner la récupération en application du traité CE. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur ces principes, il y a des traités entiers qui ont été écrits sur notamment les cas de figure précis dans lesquels on peut demander la récupération de l'aide, mais vous voyez que toute la logique du traité CE tourne autour d'un principe d'interdiction et de ce qu'on appelle un principe de standstill, qui est qu'une aide, en théorie, n'est pas censée être mise en œuvre tant qu'elle n'a pas été préalablement notifiée et approuvée par la Commission européenne. Ça, c'est ce que vous trouvez dans le traité. Et puis, un autre pan du droit des aides d'État qui est important dans notre cas de figure, qui sont ce qu'on appelle les lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté. Je vous ai expliqué qu'au titre de l'article 87.3c du traité, la Commission peut autoriser un certain nombre d'aides au bénéfice des entreprises en difficulté, mais à des conditions qu'elle fixe elle-même, et de façon à créer une certaine sécurité juridique pour les opérateurs et surtout pour les États qui octroient les aides, la Commission a fixé les principes et les conditions générales auxquelles ces aides peuvent être octroyées à des entreprises en difficulté dans des lignes directrices qui ont été révisées. La dernière révision, si on se place au mois d'octobre 2008, quand tout a commencé, j'allais dire, pour cette crise, la dernière révision datait de 2004. Alors, quel est le principe, j'allais dire, canonique qui est utilisé par la Commission pour déterminer si une aide à une entreprise en difficulté est compatible ou non avec le traité, donc légal ou non? Le principe, c'est que vous avez deux phases, normalement, deux phases dans l'intervention des États. Vous avez d'abord l'aide au sauvetage, intervient très rapidement, est temporaire, sa durée normalement est limitée à 6 mois, qui est réversible, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'une assistance de liquidité, d'une ligne de liquidité, d'un prêt, mais pas d'une intervention structurelle, par exemple, pas d'une injection en capital, et dont le seul objectif est simplement de maintenir la tête du bénéficiaire hors de l'eau, juste hors de l'eau, de façon à lui donner le temps de préparer sa restructuration et de mettre en place un plan plan de restructuration avec des mesures beaucoup plus structurelles dans une deuxième phase. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de restructuration, dans laquelle peuvent être octroyées des aides plus structurelles, des aides à la restructuration, qui peuvent prendre une forme, notamment d'intervention de haut de bilan, c'est-à-dire d'injection de capital, qui ne peut être autorisée que si elle permet de restaurer la viabilité de long terme de l'entreprise, que si elle s'accompagne d'un effort de restructuration du bénéficiaire qui est quasiment d'un montant au moins identique à l'effort qui est consenti par le contribuable pour sauver l'entreprise. Et là, la commission a, dans ses lignes directrices, mis en place le principe du 50-50, c'est-à-dire que la contribution du bénéficiaire à sa propre restructuration doit présenter 50% des coûts de la restructuration, de façon à éviter que l'intégralité de la restructuration, en réalité, du coût de la restructuration, soit portée par le contribuable. Et puis, en plus de ces mesures qui doivent garantir la viabilité du bénéficiaire à long terme, sans aide, évidemment, une fois d'aide octroyée, vous avez des mesures supplémentaires qui sont, exigées, entre guillemets, pour expier le péché originel de l'aide, et qui sont des mesures, en réalité, qui sont censées corriger la distorsion de concurrence dont on suppose qu'elle a été créée par l'intervention initiale des États. Et donc vous avez à la fois des mesures de restructuration qui visent essentiellement à réduire les coûts du bénéficiaire, à réduire la voilure en se débarrassant, enfin en vendant notamment les activités qui sont des activités en perte. Et puis vous avez des mesures supplémentaires qui corrigent les distorsions de concurrence et qui, elles, portent plutôt sur des activités bénéficiaires, et où on va demander aux bénéficiaires de l'aide de se séparer d'activités qui sont des activités bénéficiaires, de façon à, encore une fois, corriger les distorsions de concurrence permettre éventuellement l'entrée de nouveaux entrants qui, eux, n'ont pas été aidés sur le marché. Voilà le modèle canonique sur lequel fonctionnait la commission jusqu'en octobre 2008. Donc, en résumé, un remède de cheval pour les entreprises bénéficiaires d'aide, et un remède qui, lorsque par exemple il n'était pas acquis que la viabilité du bénéficiaire pouvait être assurée, pouvait simplement amener la commission à la conclusion que finalement l'aide n'était pas utile parce qu'elle ne permettait pas de ramener le bénéficiaire à la viabilité, et donc que la seule solution possible était tout simplement la liquidation du bénéficiaire, sa vente par appartement, enfin, tout ce qui permettait en fait de faire simplement disparaître un opérateur inefficient du marché. Voilà un peu le cadre conceptuel dans lequel fonctionnait la commission. Alors en pratique, comment ça marche en termes procédural? Comment ça fonctionne? L'aide, je vous l'ai dit, est notifiée. La procédure d'aide d'État par rapport à d'autres procédures en matière de droit de la concurrence, par exemple les cartels, les concentrations, est une procédure qui fait intervenir au premier chef les États et non pas les entreprises bénéficiaires. C'est l'État ou les États concernés qui notifient l'aide envisagée à la DG Concurrence. Comme je vous l'ai dit, l'approbation préalable de la commission est en théorie requise avant que l'aide soit octroyée. Alors, il y a une petite exception déjà à ce principe, mais qui est importante, c'est que un État peut notifier ce qu'on appelle un régime d'aide, c'est-à-dire un régime général qui peut s'appliquer à de nombreuses entreprises bénéficiaires, et une fois que le régime d'aide est approuvé, vous n'avez pas besoin de renotifier chaque aide individuellement octroyée au titre de ce régime d'aide préalablement approuvé. Typiquement, par exemple, en ce qui concerne les banques françaises, le mécanisme de la SFEF, qui est un mécanisme de garantie des banques françaises qui a été mis en place après la crise financière, c'est un régime d'aide qui a été notifié une fois à la Commission européenne qui est approuvée par elle, et ensuite chaque intervention individuelle au bénéfice de l'une ou de l'autre banque n'a pas nécessité une nouvelle procédure, une phase préliminaire qui dure un maximum théoriquement de 2 mois. Ce maximum est très théorique parce qu'en pratique, la commission peut l'étendre un petit peu, notamment parce que tout dépend de la date de départ de cette période et que en réalité, c'est 2 mois après une notification complète. Donc, qu'est-ce qu'une notification complète et intégrale? La commission peut considérer qu'elle a reçu tous les éléments et donc faire très bien ce délai. La commission peut, si elle n'a aucun doute sur la compatibilité de l'aide, prendre une décision dès cette phase préliminaire. Et vous verrez que c'est ce qu'elle a fait dans la plupart des cas liés à la crise financière, mais pas dans tous. Et puis alors, vous avez une deuxième phase, qui est une phase formelle, qui est beaucoup plus longue, celle-là, pour laquelle vous n'avez pas vous avez une durée indicative qui est prévue dans les textes, qui est de 18 mois. En pratique, c'est 4 mois minimum, parce que c'est une phase assez lourde qui nécessite notamment des publications au journal officiel. Quand on publie un texte au journal officiel de l'Union européenne, il faut le traduire maintenant en une vingtaine de langages. Je ne sais plus si on compte le catalan, je ne crois pas encore. Donc c'est une phase qui prend au minimum... à l'issue de cette phase, encore, la commission doit prendre en réalité une décision autorisant l'aide sous condition, autorisant l'aide sans condition ou interdisant simplement. Le processus de décision est important aussi. Comme vous le savez, la commission est composée en fait d'un collège de commissaires, ils sont 27 actuellement, un par État membre. Et donc, la décision en principe est collégiale et comme vous le savez, au sein du collège, la décision est prise à la majorité simple. En pratique, en réalité, les textes de ces décisions sont largement rédigés et préparés par les services de la DG Concurrence. Mais ils font quand même l'objet d'une négociation, notamment au niveau des cabinets des commissaires. Et puis, dans certains cas très limités, il est possible que le commissaire à la concurrence dispose d'une délégation qui lui permette de prendre seul des décisions. Je vous avoue que pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu la façon dont fonctionnent les choses en politique, c'est pas forcément un cadeau qui est fait au commissaire à la concurrence, parce qu'évidemment quand vous devez approuver une aide dont les montants se chiffrent parfois en dizaines voire en centaines de milliards d'euros, c'est une responsabilité très très lourde et vous êtes très très heureux en général d'avoir un collège de commissaires plutôt que d'avoir à prendre cette décision seule dans le secret de votre bureau. Donc en pratique, en réalité, l'essentiel de ces décisions sont prises collégialement, même si l'essentiel de la substance des décisions est en fait rédigé et préparé par les services de la DG Concurrence. Bon, les principaux acteurs, vous les connaissez, je pense, après deux jours à Bruxelles, les services, les États membres, bien sûr, le bénéficiaire et le cas échéant, ses concurrents, qui peuvent déposer des plaintes, estimer que l'aide n'est pas compatible, intervenir notamment au cours de la procédure formelle. Donc voilà comment marche, fonctionne cette procédure. Alors vous voyez bien que quand on se retrouve face à la crise du siècle, cette procédure elle pose un certain nombre de problèmes. Problème numéro un, celui de la rapidité d'intervention. Quand vous devez décider et octroyer une aide en 24 heures, ou en 48 heures au cours d'un week-end, les délais dont je viens de vous parler sont simplement pas compatibles avec simplement la nécessité du marché, la nécessité de sauver parfois des opérateurs pour lesquels vraiment tout ceci se joue parfois en quelques heures. Et notamment le principe du standstill, c'est-à-dire de la nécessité d'une approbation préalable de la commission, en pratique, il a dû faire l'objet régulièrement d'un certain nombre de contournements et ça a été à nouveau le cas évidemment au cours de la crise financière. Et vous verrez que si vous avez la curiosité d'aller sur le site de la DG Concurrence et de lire les décisions, un certain nombre de décisions sont considérées par la commission comme illégales, c'est-à-dire non notifiées préalablement et non autorisées préalablement à l'octroi, mais compatibles avec le traité, ce qui les guérit de l'essentiel de leurs mots. La jurisprudence communautaire étant qu'une aide illégale mais compatible, une juridiction nationale peut, mais n'est pas tenue d'en exiger la récupération. Et en pratique, l'essentiel des juridictions nationales simplement ne aussi s'adapter avec la mise en place d'équipes, j'allais dire, vraiment dédiées, qui ont pris des décisions parfois en 48 heures, précisément pour éviter ce problème lié au standstill. Et pour des raisons très pratiques, parce que si vous prenez par exemple le cas d'une garantie, qui est octroyée, une garantie de financement qui est octroyée à une banque, pour que la garantie simplement fonctionne sur les marchés, pour que les agences de rating considèrent que cette garantie est valable et donc notent correctement les émissions qui peuvent être faites sur la base de cette garantie, il faut qu'elles soient absolument persuadées que cette garantie va jouer et qu'il n'y aura pas de décision, notamment au contraire de la Commission européenne, qui vienne simplement remettre en cause l'ensemble du dispositif, soumettre ces garanties à des conditions qui ne sont pas initialement prévues. Et donc vous avez des questions de droit, notamment des tiers et des investisseurs, qui ont imposé en réalité à la Commission, notamment au tout début de la crise financière, de prendre des décisions très rapidement, notamment sur ces régimes et ces systèmes de garantie. Alors, si on prend simplement... si on fait un petit historique des interventions de la Commission, enfin des interventions étatiques, vous avez deux phases la deuxième se subdivisant en quatre phases. Vous avez avant et après octobre 2008, avant et après la chute de Lehman Brothers. Avant octobre 2008, vous avez eu un certain nombre de banques qui ont éprouvé des difficultés très très sérieuses, notamment sous des centres de Northern Rock aux États-Unis, et puis toute une série de banques, notamment allemandes, des Handelsbanken, Larsen & Toubro, par exemple, ou Carré, pour lesquels les interventions remontent à 2016 et 2008, et pour lesquels la Commission a pris des décisions sur la base de l'article 87.3c du traité, c'est-à-dire au titre des aides aux entreprises en difficulté, avec tous les caveats et toutes les conditions que je vous ai décrites, celles qui sont quand même assez restrictives. Et puis, à partir d'octobre 2008, les choses ont complètement changé, parce que la crise financière s'est aiguisée, comme vous le savez, enfin, s'est intensifiée, et qu'on s'est aperçu, encore une fois, que pour des raisons simplement de délai, il n'était plus possible de travailler avec le cadre existant, et puis aussi pour des raisons de substance. Si je reviens juste un instant en arrière sur les règles au titre du sauvetage et de la restructuration, vous voyez par exemple si on applique ces règles à la lettre, il n'est pas possible de faire une injection de capital dans l'urgence à une entreprise qui en a besoin. Vous devez attendre 6 mois. Alors en réalité, il y avait déjà une toute petite dérogation pour les banques, mais qui était trop limitée pour être vraiment efficace dans ce cas de figure. Donc typiquement, vous aviez un premier problème là, qui était immédiat, c'est que vous avez un certain nombre d'États membres qui, pour simplement préserver la viabilité de leur banque, ont dû faire des injections de capital très rapidement dans ces banques, racheter éventuellement ou nationaliser partiellement ces banques. On peut penser par exemple en Belgique, Alexia, Fortis, on peut penser en Allemagne, HRE, Boreal. Donc vous avez eu toute une série d'interventions, ING, toute une série d'interventions dans l'urgence. Deuxième sujet, quand vous avez des interventions absolument massives, le principe du 50-50 n'est pas vraiment applicable. Encore une fois, il est d'autant que toutes ces mesures et tout ce remède de cheval, en théorie, étaient censés être appliqués en 3 ans. Or, si vous demandez à une entreprise, et notamment à une banque, de vendre en 3 ans un certain nombre de ses actifs, et de commencer pratiquement immédiatement à vendre ses actifs, vous déclenchez ce qu'on appelle une fire sale, c'est-à-dire une vente à perte. Tout le marché sait que l'actif est à vendre. D'abord, personne ne veut acheter l'actif, il n'y a pas de marché. Et ensuite, pour autant qu'il y ait un marché, vous avez probablement un marché qui est extrêmement déprimé, et donc vous vous retrouvez avec une banque qui est forcée, en application des lignes directrices de la Commission, de vendre un actif avec des pertes colossales, ce qui ne fait qu'amplifier ces problèmes et nécessite une nouvelle intervention des États. Donc là, on s'est retrouvé face à un problème, j'allais dire, quasi insoluble sous le régime juridique en vigueur. Et donc, à partir d'octobre 2008, vous avez eu nombre de phases. Alors, juste pour compléter ce panorama historique, il faut savoir que la première réaction des États, et on n'a pas été très très loin d'y arriver, a été simplement de dire suspendons les règles du traité en matière des États pendant la durée de la crise financière. Et on a été très 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 près de le faire au plus haut niveau. Et puis ce qui s'est passé, et ce qui a, j'allais dire, sauvé entre guillemets les règles communautaires des aides d'État, ça a été la décision irlandaise de garantir l'intégralité des dépôts de ces banques, ce qui a amené des transferts massifs, notamment des épargnants britanniques vers les banques irlandaises, ce qui a amené des tensions assez vives entre les différents gouvernements. Et finalement, les gouvernements se sont aperçus que s'il n'y avait pas un ensemble de règles communes, et au fond, s'il n'y avait pas les règles en matière d'aide d'État, il faudrait les inventer, parce qu'on se serait retrouvé dans un système où on avait simplement une concurrence et une course à la subvention dont personne ne pouvait évidemment prédire la suite. Et donc finalement, ce qui a été décidé, ça a été de maintenir le régime des aides d'État, mais en l'assouplissant et en appliquant ce fameux article 87.3b dont je vous ai parlé tout à l'heure, perturbation sérieuse à l'économie nationale. Alors, il faut savoir que cet article, je vous l'ai dit, a été très rarement appliqué en Europe. Pour vous donner un exemple, la Commission avait refusé d'appliquer cet article à la situation des lenders allemands après la réunification, qui n'était quand même pas tout à fait rose à l'époque. Ce qui vous donne une idée du pas, j'allais dire, même idéologique, ça a représenté pour la Commission que d'appliquer pratiquement du jour au lendemain cet article 87.3b à la crise financière. Et donc la Commission a sorti à partir de là une série de communications, la première en octobre 2008, reconnaissant que l'article 87.3b est applicable et puis posant un certain nombre de règles qui s'inspirent largement des règles existantes mais qui en réalité les assouplissent. Et on peut distinguer quatre phases en réalité. Dans la première phase, vraiment octobre-décembre 2008, la Commission s'est vraiment occupée des urgences. Elle a posé ce principe général. Elle a autorisé toute une série d'aides très rapidement, notamment de régimes de garantie. Elle a autorisé certaines recapitalisations, mais évidemment, une recapitalisation, c'est déjà une intervention beaucoup plus structurelle. Donc en général, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a autorisées pour 6 mois. Je veux dire, whatever that means en anglais, puisqu'une recapitalisation par définition est une mesure structurelle. Je ne sais pas très bien quelle est la base pour autoriser simplement une recapitalisation pour 6 mois, mais elle a essayé, si vous voulez, à la fois de parer au plus urgent et de gagner du temps pour essayer de préserver au maximum l'édifice du droit des aides d'État en Europe. À partir de décembre 2008, les choses ont commencé un petit peu à se poser et puis les vrais problèmes ont commencé à surgir. Notamment, on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait quand même 2 types de banques en Europe. Vous aviez des banques qui avaient des vrais problèmes, et puis vous aviez des banques qui avaient des vrais problèmes structurels liés à des stratégies d'investissement hasardeuses, à tout un tas de cas de figure, mais dont la banque était partiellement responsable. Et puis vous aviez des banques qui allaient plutôt bien, mais qui, du fait de la crise financière, se sont retrouvées face soit à une crise de liquidité, et soit face à une crise de confiance mais qui touchait l'ensemble du système, et pour lesquels l'aide étatique n'avait pas seulement pour objet d'assurer la viabilité de la banque, qui à long terme était plutôt assurée, mais d'éviter un credit crunch, c'est-à-dire d'éviter simplement un effet dépressif et simplement une fermeture des guichets de crédit, des crédits que concentraient ces banques à l'économie réelle, et donc pour éviter contagion de la crise financière à la crise réelle. Et donc, en décembre 2008, la Commission a fait une nouvelle communication en posant des règles, notamment en matière de recapitalisation, et par laquelle elle a estimé que une recapitalisation d'une good bank, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une recapitalisation d'une bad bank, et que quand on recapitalisait une bonne banque, par exemple les banques françaises, on pouvait poser moins de conditions que si on recapitalisait une banque qui avait des problèmes vraiment structurels, dans quel cas il fallait traiter ces problèmes structurels, prendre une décision individuelle et notamment demander deuxième phase, ça a été, j'allais dire, une phase où la Commission est passée d'une attitude, j'allais dire, un peu défensive et réactive. On l'a beaucoup dit, hein, vous avez lu les journaux, comme, notamment en France d'ailleurs, on a beaucoup dit que la Commission avait plutôt eu un rôle un peu passif et réactif dans la crise financière. Et là, la Commission, et notamment la DG Concurrence, a essayé d'avoir un rôle un peu plus proactif. Au travers de deux grands sujets. Premièrement, ce qu'on appelle des actifs toxiques, vous avez tous ces actifs dépréciés, s'ils ne sont pas comptés à leur juste valeur dans le bilan des banques, bah, pèsent sur le bilan des banques et transforment ces banques en ce qu'on appelle les zombie banks, hein, banques zombies qui traînent ces actifs toxiques comme un boulet, comme ça a été le cas par exemple au Japon pendant plus d'une décennie. Et donc la Commission a dit, elle est passée d'un rôle simplement où elle réagissait aux interventions des États à un rôle un peu plus prescriptif où elle a dit il faut traiter ce problème des actifs toxiques, il faut sortir ces actifs toxiques, même si ça nécessite une intervention étatique supplémentaire, par exemple une garantie de ces actifs toxiques, un rachat par les États de ces actifs toxiques, le placement de ces actifs toxiques dans ce qu'on appelle une bad bank, mais il faut traiter ce problème des actifs toxiques et voilà les règles que moi, Commission, je vais poser pour que ce problème des actifs toxiques soit réglé. Donc, en utilisant le cadre juridique des aides d'État, la Commission a essayé de passer à un rôle un petit peu plus prescriptif. Et puis, dans cette période, mars, juillet, on a vu aussi les premières décisions définitives de la Commission. Je vous avais dit qu'elle avait pris des décisions temporaires au départ, notamment sur des plans de restructuration qui lui ont été soumis par un certain nombre de banques. Vous avez deux décisions très importantes sur des banques allemandes, qui s'appellent Commerzbank d'un côté, et WestLB, Westlandesbank de l'autre, pour lesquelles la Commission a examiné pour la première fois des plans de restructuration, j'allais dire, d'une nouvelle manière, c'est-à-dire soumis dans le cadre de ces nouvelles lignes directrices d'octobre 2008, et a imposé un certain nombre de conditions qui, facialement, sont assez drastiques. Par exemple, pour Commerzbank, la Commission a exigé une diminution du bilan de 45%. Petit retour en arrière. Avant cette crise, la Commission a été confrontée assez peu fréquemment à des restructurations bancaires. Le cas le plus important que j'ai eu à traiter, on le connaît bien en France, c'est celui du Crédit Lyonnais. Et à l'époque, la Commission avait déjà demandé une diminution du bilan de 45% du Crédit Lyonnais, évidemment sur une période assez longue. Donc dans Commerzbank, elle a plus ou moins appliqué le même benchmark, mais sur une période encore plus longue, qui s'étale au-delà de 2014. Et puis, elle a imposé toute une série de mesures supplémentaires, notamment des mesures comportementales, qui, Commerzbank n'est pas censé être dans le top 3 en termes de rémunération, par exemple des comptes d'épargne, etc., ou des prix en réalité qu'elle offre à ses clients pendant une certaine période. Donc elle n'est pas censée être la banque la plus compétitive dans le peloton des trois banques les plus compétitives en termes de prix en Allemagne. Par ailleurs, cette décision s'est assortie de prescriptions assez précises sur les ventes d'actifs à réaliser par Commerzbank, en particulier sa filiale qui s'appelle Eurolipo, en particulier des réductions notamment en termes d'effectifs, des fermetures d'agences, et puis des ventes d'actifs divers et variés. Donc on a eu une phase où la Commission a commencé à entrer vraiment dans le vif du sujet. Et puis depuis juillet 2009, la Commission a sorti une nouvelle communication sur les plans de restructuration, parce que pour l'instant elle a traité depuis octobre 2008 vraiment deux plans de restructuration, mais elle en a une dizaine sur sa table à traiter, et qui ne sont pas des petits clients, hein. On parle de RBS, on parle d'ING, on parle de Dexia, on parle de KBC, etc. Et puis d'un certain nombre de banques allemandes également. Donc depuis juillet 2009, la Commission a sorti une communication qui clarifie un petit peu les principes qu'elle va appliquer dans ses plans de restructuration et qu'elle a commencé à appliquer en mai 2009 à Commerzbank notamment. Évidemment, j'ai mis Tough Times Ahead. régimes généraux et plus de 30 décisions sur des aides à des institutions européennes. Aucune, pour l'instant, aide n'a été interdite par la Commission. La Commission n'a pris jusqu'à présent que des décisions d'autorisation, mais toutes ces décisions d'autorisation ont été soumises à condition. Dans la plupart des cas, comme je vous l'ai dit, sous réserve de revues dans les 6 mois, dans la plupart des cas. Bon, les principaux principes, je vais passer assez vite là-dessus parce que les principaux principes appliqués ne sont pas très différents de ceux qu'elle a appliqués jusqu'à présent. Principe de non-discrimination, essentiel. Les mesures doivent être non-discriminatoires. On ne peut pas, par exemple, mettre en place un régime d'aide qui ne bénéficie qu'aux établissements. Si on met en place un régime d'aide, il doit bénéficier à l'ensemble des banques ayant un établissement dans le pays considéré, y compris les filiales d'établissements étrangers, qui n'est plus par des capitaux étrangers, en tout cas communautaires. L'aide, le principe de appropriateness, pardon, l'aide doit être ciblée, c'est-à-dire qu'elle doit simplement être efficace. Elle doit viser à résoudre les problèmes du bénéficiaire. Typiquement, si vous avez un problème de liquidité, bah, une recapitalisation qui consiste à injecter du capital plutôt en haut de bilan n'est pas l'instrument le plus approprié. Une garantie de financement serait peut-être plus appropriée. À l'inverse, si vous avez un problème structurel, une avance de liquidité n'est peut-être pas l'aide la plus appropriée. Donc il faut que l'aide soit appropriée, soit bien ciblée. Le principe de nécessité, c'est-à-dire que l'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire, ça c'est un principe de base du droit des États qui est maintenu, et qui a pour corollaire que, typiquement, par exemple, les aides doivent être rémunérées. Par exemple, si un État octroie une garantie, le bénéficiaire doit rémunérer l'État à un niveau qui est proche du prix de marché. Qu'est-ce que le prix du marché quand il n'y a plus de marché? Une recapitalisation doit être là aussi rémunérée, donc l'État actionnaire reçoit un dividende. Et la Commission, par exemple, sur les recapitalisations, notamment par ce qu'on appelle le titre subordonné, la méthode qui a été employée notamment en France, a imposé un niveau minimal de rémunération des États. Et puis proportionnalité, limitation des distorsions de concurrence, et c'est à ce titre que la Commission a imposé un certain nombre de décisions. Alors, j'ai toute une série de points très techniques sur les différents instruments employés, sur lesquels je vais passer rapidement. Sachez simplement que les États ont employé toute la palette des instruments disponibles pour intervenir au cours de cette crise, comme les encourager d'ailleurs, les y encourager le Conseil européen, le Conseil ECOFIN, les instances internationales, le FMI, etc. Et la Commission s'est prononcée et a posé des règles spécifiques sur l'emploi de chacun de ces instruments. Recapitalisation, le principe là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on distingue entre les sound banks et donc les banques saines et les banques en difficulté. Et évidemment, en réalité, à partir de décembre 2008, c'était assez facile de poser le principe en décembre 2008. Et puis progressivement, on s'est aperçu que la réalité n'était pas aussi simple que ça. Vous n'avez pas des blancs et des noirs, vous avez beaucoup de gris en réalité. Vous avez beaucoup de banques qui sont un peu entre les deux, ou alors vous avez des banques qui sont fondamentalement saines un mois donné, et puis qui, le mois suivant, bah, deviennent des banques en difficulté, parce qu'on n'avait pas simplement vu que ces banques avaient un certain nombre de problèmes structurels, par exemple des actifs toxiques, qui progressivement sont révélés au grand jour. Donc, cette distinction a eu tendance à s'estomper. Les garanties, je ne reviens pas là-dessus. Les actifs toxiques, le traitement des actifs toxiques, essentiellement par des garanties, là aussi des montants sont considérables. Si vous prenez par exemple le schéma de protection des actifs toxiques de RDS, on parle quand même de 325 milliards de livres sterling d'actifs protégés, donc de risques potentiels pour le trésor britannique. Donc vous voyez que les montants sont absolument, enfin les superlativement. Donc vous avez une communication très technique de la Commission, mesurer l'aide, imposer un certain nombre de conditions. Et puis donc, vous avez, pour les banques en difficulté, fait un certain nombre de plans de restructuration, je vous en ai parlé. La décision Commerzbank qui est un bon exemple d'application récente d'un plan de restructuration. La communication de juillet 2009 dont je vous ai parlé. Alors la communication quand même assouplit un petit peu les règles, et notamment je vous ai parlé du risque de fire sale tout à l'heure. La commission fait preuve de flexibilité, et donc plutôt que d'avoir un horizon temporel limité à 3 ans pour faire la restructuration, elle se donne 5 ans pour le faire. Et de même, la commission a simplement laissé tomber purement et simplement le principe du 50-50 dont je vous parlais tout à l'heure, et a simplement dit qu'à partir de maintenant, elle apprécierait la contribution du bénéficiaire au cas par cas et qu'elle demandait simplement une rémunération appropriée et une descente largement en dessous des 50%. Alors, petite conclusion rapide de ce tour d'horizon très rapide. Quelques questions et quelques défis. 5 questions. Premièrement, est-ce que ça marche? Est-ce que ces interventions ont vraiment marché? Ont vraiment atteint leur objectif? Si l'objectif était de sauver le système financier, bah vous voyez qu'on n'a pas eu en Europe de faillite à la Lehman Brothers depuis octobre 2008, donc on peut dire que la réponse est positive. Mais si l'objectif était d'éviter une contagion de la crise financière à l'économie réelle, et si l'objectif était de maintenir un flux de crédit constant à l'économie, bah la réponse est beaucoup plus... La réponse est beaucoup plus douteuse en réalité. Et donc c'est quand même un premier principe et une première question qui va, je pense, hanter la Commission pendant un certain nombre d'années. Est-ce que finalement ces interventions étatiques ont atteint leur objectif? Deuxième question, est-ce que tout ça va tenir juridiquement? Comme vous le savez, l'Union européenne est un espace de droit. Les décisions que prend la Commission sont naturellement soumises au contrôle juridictionnel, notamment des tribunaux communautaires. Rien n'empêche un tiers intéressé, alors il faut quand même avoir remplir un certain nombre de conditions pour être recevable en matière d'État dans les tribunaux communautaires, enfin d'attaquer un certain nombre de ces décisions devant les tribunaux communautaires. Or, les tribunaux communautaires ne se sont pas prononcés jusqu'à présent, ne serait-ce que sur le principe de l'applicabilité de l'article 87.3b du traité. On peut supposer que la Commission aura un certain nombre d'arguments pour défendre ces décisions. Et d'ailleurs, on peut observer que pour l'instant, aucune de ces décisions n'a fait l'objet d'un recours. Parce qu'évidemment, si vous faites un recours juridictionnel, vous devez montrer que vous avez un intérêt. On ne voit pas très bien un État membre attaqué qui lui-même a probablement été laissé vendre avec un autre État membre. On voit peut-être mieux un concurrent éventuellement attaquer ce type de décision, mais beaucoup de ces concurrents en réalité ont été eux-mêmes aidés. Et donc il faudrait vraiment avoir beaucoup de courage et être très très sûr de soi pour attaquer ce type de décision, mais il n'empêche que vous avez tout de même une question juridique qui, objectivement, et là, n'a pas été réponse. Troisième question, l'une des plus importantes pour moi, me semble-t-il, quid du marché unique? On le sait bien, cette crise a été européenne et mondiale en réalité, et pourtant le budget européen étant limité à peu près 1% du PIB de l'Union européenne, vous avez vu les montants dont on parlait, ce sont les États qui sont intervenus, et comme vous le savez, les États interviennent plutôt que d'ailleurs toute institution, plutôt pour leur paroisse, entre guillemets, et donc plutôt pour leurs institutions nationales. Et non seulement vous avez ce réflexe national qui s'est créé, mais en plus, sous l'effet des plans de restructuration, vous avez un certain nombre de banques, l'exemple de Commerzbank est tout à fait intéressant, qui ont été invitées à se désengager, à vendre un certain nombre d'actifs, et qui ont plutôt vendu des actifs en dehors de leur marché domestique. Et c'est ainsi que vous êtes retrouvé, vous avez eu, en avril, une intervention du président de la Bundesbank en première page du Financial Times, au milieu des négociations entre Commerzbank et la Commission européenne, qui a dit la Commission européenne est en train de saboter, de simplement scier la branche sur laquelle elle est assise, c'est-à-dire de saboter le marché intérieur, puisqu'elle nous demande, à nous, banque allemande, de nous désengager d'Europe centrale et orientale. Qui va prendre le relais? Personne. Donc en réalité, la Commission, par sa politique de contrôle des aides d'État, risque de démanteler le marché intérieur. Et de fait, vous apercevez que le nombre de fusions transfrontalières qui puis cinquième question, où est la sortie? Par où est la sortie? Nous sommes dans un régime exceptionnel qui est censé expirer alors, en 2010, selon les lignes directrices. Comment sort-on de ce régime? Est-ce qu'on en sort tous ensemble? Est-ce que tous les États membres doivent en sortir ensemble? Est-ce qu'il faut prolonger ce régime exceptionnel pour certains États membres? Et si oui, vous imaginez bien les